Jeudi 26 décembre, bonjour à tous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les 20 ans de la tempête du siècle en France. De nombreuses victimes, une forêt décimée et un réseau électrique qui n'était pas préparé pour un tel événement climatique. Depuis, les choses ont changé. Les autres titres, Laurence.
Les surveillants de prison autorisés à partir d'aujourd'hui à utiliser des caméras lors d'interventions. Dans notre série Les fiascos de l'année 2019, retour sur l'erreur politique des Républicains aux Européennes avec le choix de François-Xavier Bellamy. Et puis à l'étranger, le Burkina Faso, endeuillé après deux attaques djihadistes sans précédent. Le pays est en train de devenir le maillon faible de l'Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre le terrorisme.
Et pour dialoguer avec le dessinateur Jules et le philosophe Charles Pépin, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Vous pouvez également réagir sur l'application mobile de France Inter. Ils seront nos invités dès 8h20.
France Inter.
Des vents jusqu'à 260 km à l'heure, 140 morts, dont 92 en France, des milliers de blessés, près de 20 milliards d'euros de dégâts. Les 26 et 27 décembre 1999, Lothar et Martin dévastaient la France et d'autres pays européens. On les appellera les tempêtes du siècle, du 20e siècle. Ce soir du 26 décembre 1999, 3,5 millions de personnes se retrouvent sans électricité. 140 lignes très haute tension sont à terre, des milliers de kilomètres de lignes électriques arrachées. À l'époque, Enedis n'était pas préparé à un tel événement. C'est ainsi qu'au lendemain de cette tempête Lothar, une force d'intervention spécialisée était créée pour remettre le courant au plus vite, souvent en quelques heures. Cette brigade est gérée depuis une tour du quartier d'affaires de la Défense à Puteaux. C'est le reportage de Valentin Boisset.
Au milieu de la pièce trône, une carte mise à jour en temps réel. Elle compile les informations sur 1,4 million de kilomètres de lignes électriques. Aurore Faduti coordonne la réception des données.
On a un outil qui est assez récent, qui s'appelle Victor, qui nous permet de visualiser en temps réel l'état du réseau.
Vous voyez, on a Gironde, donc c'est un des départements où nous sommes en train d'intervenir en direct.
Robin de Vaugelaire s'occupe, lui, de la communication de la cellule de crise. Quelques habitations en Gironde restent impactées par la tempête Fabien. Il faut donc trouver l'origine des pannes.
On envoie un hélicoptère ou des drones pour voir faire un diagnostic et voir du ciel les dégâts sur le réseau électrique.
Un poteau tombé, un câble arraché, 2500 femmes et hommes peuvent ensuite intervenir au sol. Ils s'appellent les cohortes.
Des équipes en haute montagne qui savent skier, qui ont des 4x4, des motoneiges. À Paris, où le réseau électrique est sous terre, dans les catacombes, vous avez des techniques les mêmes que les égoutiers.
Depuis la tempête du siècle, les nouvelles technologies sont aussi arrivées. Aujourd'hui, le courant électrique peut se réorienter à distance vers les habitations en contournant les endroits accidentés. Il y a quelques jours, rien que sur la tempête Fabien, 200 000 habitations ont retrouvé l'électricité dans la journée, sans intervention.
Valentin Boisset, des pans entiers de la forêt française seront décimés en 1999, une forêt qui aujourd'hui s'est régénérée. Nous en reparlerons dans le journal de 8 heures. On ne quitte pas la forêt, direction celle du cinéaste Luc Besson. Il est accusé par les chasseurs de laisser proliférer des cerfs sur sa propriété normande. Et c'est aujourd'hui que la justice doit rendre sa décision. Le procès s'était tenu le 4 novembre dernier devant le tribunal d'instance d'Argentan dans l'Orne. La Fédération des chasseurs de l'Orne lui réclame 130 000 euros car elle doit indemniser les agriculteurs pour les dégâts occasionnés par le gibier. Ce qui s'oppose ici, ce sont deux conceptions de la cohabitation de l'homme avec les animaux. Les explications de Corinne Audouin.
Les chasseurs sont responsables de la régulation du grand gibier et doivent indemniser les agriculteurs dont les champs sont abîmés par ces animaux. C'est le code de l'environnement qui l'établit. Or, selon la Fédération des chasseurs de l'Orne, le refus de Luc Besson d'exercer son droit de chasse a fait de sa propriété de 160 hectares un refuge pour les cerfs. Ils assurent avoir versé depuis 2014 plus de 120 000 euros de dédommagement aux agriculteurs voisins. C'est cette somme qu'ils réclament aux cinéastes, soit ils respectent le plan de chasse, soit il assume financièrement, a ainsi expliqué l'avocat des chasseurs. En face, Luc Besson, qui n'était pas présent à l'audience, estime que le lien entre la présence de cerfs sur ses terres et les dégâts causés n'est pas établi. Son bois ne représente qu'1% de la forêt de Saint-Évroult, a plaidé son avocat. Dans une interview au Parisien, le cinéaste avait accusé les chasseurs d'être à contresens de l'histoire. Luc Besson est complètement déconnecté des réalités de la nature, avait répliqué l'avocat de la Fédération opérations de chasse.
Corinne Audouin, 3 blessés dont 2 graves la nuit dernière lors d'une fusillade à Besançon. Des hommes cagoulés ont ouvert le feu sur un groupe, une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants dans le quartier sensible de Planoise. C'était un dispositif très attendu par les surveillants de prison. Depuis hier, ils sont autorisés à utiliser des caméras piétons au cours de certaines interventions. Une expérimentation avait déjà été menée en 2018 dans 9 établissements, avec des résultats globalement positifs, notamment sur la prévention des agressions de surveillants. 4000 en moyenne chaque année. Cette fois, l'expérimentation va être généralisée et testée pendant 3 ans, Delphine Gautchou.
Ces caméras embarquées auraient pu être disponibles bien plus tôt, car la loi du 3 août 2018 le permettait, mais faute de décret d'application, le dispositif était resté dans les placards. L'agression en mars dernier de 2 surveillants au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé et sa compagne a sans doute accéléré le processus. Alors toutes les missions ne pourront pas être enregistrées, seules celles, précise le décret, présentant à cause de leur nature ou du niveau de dangerosité des détenus, un risque particulier d'incident ou d'évasion. L'objectif du ministère de la Justice est triple. D'abord, évidemment, prévenir les risques d'agression ou d'évasion, mais aussi collecter des preuves en cas d'infraction. Enfin, l'administration pénitentiaire estime que cela permettra d'avoir un retour d'expérience avec les surveillants après coup, sur notamment les bons ou les mauvais gestes. L'expérimentation menée en 2018 avait démontré que l'agressivité physique et verbale des détenus avait diminué avec la présence de ces caméras. Les surveillants, eux, avaient exprimé un sentiment de sécurité renforcé et une meilleure maîtrise de leurs réactions.
7h06, les fiascos de 2019, c'est la suite de notre série de cette semaine dans le journal de 7h avec ce matin un échec politique, Laurence.
François-Xavier Bellamy devait réveiller la droite aux élections européennes. Le 15 mai dernier, le candidat des Républicains affichait une confiance insolente lors d'un meeting au Palais des Congrès de Paris.
Nous devons nous montrer à la hauteur de cette histoire et dans 10 jours, cette victoire sera la vôtre. Pour refonder l'Europe et pour rétablir la France, merci de tout cœur, merci infiniment.
2 semaines plus tard, le couperet tombe. Le jeune professeur agrégé de philosophie, tête de liste du parti LR, termine 4e du scrutin avec à peine 8,5% des suffrages. C'est le pire résultat enregistré par la droite dans un rendez-vous européen. Bellamy ou l'histoire d'un pari perdu avec Cécilia Arbonnat.
Tout l'été, les Républicains se sont interrogés sur la débâcle et surtout sur leurs chances de survie. À la rentrée encore sonnée, Jean Leonetti, alors président par intérim du parti, déclarait « On a failli éteindre la lumière ». Justement, c'est peut-être une phrase sur la fin de vie qui a fait basculer la campagne. Le candidat de la droite, François-Xavier Bellamy, s'exprime sur France Inter dans l'affaire Vincent Lambert.
Il n'y a pas de vie indigne d'être vécue et même une vie qui peut sembler inutile, je crois, est une vie profondément humaine. Nous avons tous été dépendants, nous le serons tous un jour.
Le sujet est sensible, il divise la France et il fait remonter à la surface d'autres prises de position de ce conservateur et catholique assumé. Son opposition au mariage pour tous, son hostilité à l'interruption volontaire de grossesse, ses liens étroits avec les fondateurs du mouvement Sens commun. Il a fait peur à nos électeurs, résume un sénateur, d'où le vote sanction. 7 mois plus tard, François-Xavier Bellamy est un eurodéputé appliqué et assidu. On le voit peu au siège des Républicains. Un cadre du parti confirme, Bellamy est un homme isolé et de conclure froidement, je ne me plains pas de sa distance.
Cécilia Arbonnat, casserole politique, entreprise en déroute ou ratage sportif, les fiascos de l'année 2019 sont à retrouver sur franceinter.fr. À l'étranger, des fêtes de fin d'année dans les flammes pour 2000 personnes au Chili. Un vaste incendie ravage depuis mardi les hauteurs de la ville touristique de Valparaiso. 245 maisons ont brûlé. Le feu était parti de pâturages et de bosquets avant de se propager rapidement aux maisons faites de bois et de tôle. Au moins 16 morts, c'est le bilan encore provisoire du typhon qui a balayé le jour de Noël des villages reculés comme des zones touristiques du centre des Philippines, entre autres les îles de Boracay et de Coron, destination très prisée des étrangers pour leurs plages de sable blanc. Le Burkina Faso endeuillé par 2 attaques menées en l'espace de 24 heures dans le nord du pays. 35 civils dont 31 femmes et des soldats, 7 soldats ont été tués lors de la première attaque de lundi. Un 2e assaut contre des soldats a été annoncé hier soir alors que le pays observait déjà un deuil national. Des assaillants s'en sont pris également à des militaires burkinabés, ce qui a fait 10 soldats dans la même zone du nord du pays. Alors le Burkina Faso devient-il le maillon faible de l'Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre le terrorisme? C'est l'avis du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur associé à Sciences Po.
il est un maillon faible probablement parce que son armée est sous-équipée et sous-entraînée. Et on voit bien que le président burkinabé n'ose pas avoir d'attitude assez ferme et assez franche. C'est une assez mauvaise nouvelle, surtout que nous sommes au lendemain de l'annonce par, non pas une annonce, mais des bruits qui courent sur le retrait possible des forces américaines d'Afrique. Et on voit que les Américains lâcheraient l'effort antiterroriste au pire de la crise. C'est-à-dire que les armées françaises ont absolument besoin des Américains. Il y a un appui logistique et un appui renseignement qui est considérable.
De quelle logistique disposent les djihadistes dans cette région du Sahel ? Est-ce que cette logistique a tendance à se renforcer ?
Écoutez, je ne sais pas si la tendance va se renforcer, mais on voit bien qu'ils sont capables de conduire des opérations majeures, ce qui suppose une logistique. Et on voit bien que l'armée française fait au mieux. Il est absolument nécessaire que l'Europe prenne à son compte bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui ce théâtre d'opérations.
Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur associé à Sciences Po, au micro de Louis-Valentin Lopez.
Fauda, c'est une série israélienne, un succès mondial, et la troisième saison commence ce soir.
Oui, mais en Israël seulement pour l'instant. Cette série raconte l'histoire de commandos du Sinn Bet, les services secrets intérieurs israéliens, quelque peu de tête brûlée, infiltrés en Cisjordanie, avec des agents arabophones grimés en palestinien. Les deux premières saisons ont connu un grand succès chez les Israéliens, les Palestiniens et dans le monde. Et sans doute que cette saison 3 sera elle aussi très regardée en avril prochain dans le reste du monde. Ce sera sur Netflix. Frédéric Mettezo.
Pour cette troisième saison, Doron et ses coéquipiers pénètrent à Gaza. La recette n'a pas changé, une mission ultra dangereuse, des infiltrés qui risquent de se faire démasquer à tout moment, le héros tourmenté par ses cas de conscience et ses problèmes personnels. Pour Uri Shinar, l'un des producteurs télé les plus connus d'Israël, ami de l'acteur principal et co-scénariste de la série, Fauda est un succès car elle sonne juste.
One of the huge successes.
L'une des grandes réussites, ce n'est pas d'être objectif, mais de présenter authentiquement le conflit israélo-palestinien avec les deux points de vue. Vous trouverez très peu d'Israéliens impliqués dedans pour vous dire que ce n'est pas représenté de façon authentique. Et si vous parlez à des Arabes palestiniens, vous entendrez la même chose.
Fauda a réhabilité les Israéliens originaires des pays arabes, régulièrement moqués dans le pays. Elle montre aussi des Palestiniens qui vivent, tout simplement. Elle a aussi ses détracteurs. Le journal de gauche Haaretz regrette une vision israélo-centrée. Mais Fauda demeure l'une des séries israéliennes les plus connues à l'étranger. Israël qui est le premier importateur de séries aux États-Unis devant les Britanniques. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Fauda, troisième saison par l'opérateur YES en Israël et sur Netflix en France en avril prochain.
Et donc une bonne nouvelle. Merci Laurence Thomas.